Moi, je prends le bruit du coup, il faut faire orientale. J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi, j'ai essayé de vous remercier au passage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux appels de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix qui vous tient à nouveau compagnie dans ce magazine d'échanges citoyens. Dans une déclaration faite le lundi dernier à Mbandaka, un groupe de députés reproche à l'autorité provinciale, entre autres, la mauvaise gouvernance et l'instauration des nouvelles armoiries au mépris de la constitution du pays. Ces députés demandent au ministère de tutelle l'annulation pure et simple de ces actes portant ces armoiries. Certains observateurs estiment que la demande de ces députés se justifie pour décrister la situation actuellement à l'Équateur, tandis qu'une autre opinion pense que cette question peut être résolue au niveau de l'Assemblée provinciale. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Sylvain Matundou, Pierrot et Lamegi, Julie Fezabongonda concourent à la production de cette émission, coordonnée et présentée par J.R. Lungemboula Bung Angie sous la supervision de Martin Sebou Jaoué. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungemboula.
Nous avons en ligne notre invité Dieudonné Lokangé. Vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Nous rappelons que vous êtes ministre provincial des Finances à l'Équateur et vous avez accepté donc à la place du gouverneur qui devait être notre invité et qui en ce moment prend son avion pour l'Angola pour en fait répondre aux préoccupations des uns et des autres et aussi apporter quelques éclairages par rapport à cette situation qui prévaut actuellement à l'Équateur. Alors, première question au regard des difficultés qu'ont traversées les différents gouvernements provinciaux qui se sont succédés à l'Équateur, depuis José Makila, en passant par Koya Gyalo, Bayende, Ipeto et enfin Tony Bolamba, on a l'impression que la mise en place effective de la décentralisation pose problème dans cette partie de du pays.
Bon, la mise en place ne pose pas problème, c'est les individus qui posent problème parce qu'ils veulent confisquer la décentralisation que l'on octroie aux provinces. Et la loi sur la libre administration des provinces demande à ce que Kinshasa puisse nous accompagner dans ce que nous faisons. Nous ne tournons pas en électron libre, mais malheureusement, cela est mal compris par certaines personnes et évidemment, il y a eu, avant le gouvernement Bolamba, il y a eu des gouverneurs qui se sont comportés ici comme des roitelets. Et ils avaient le soutien aussi de Kinshasa. Et ils se sont comportés comme il s'est fait. Et la population en a souffert, mais bon, on n'en a pas fait un problème.
Oui, mais les griefs qu'on a énoncés pour le gouvernement Bolamba, c'est pratiquement le même pour les gouvernements qui se sont succédés. Si je remonte, en tout cas dans l'histoire, avec José Makila, où on a parlé encore des détournements, des fonds, et pour Ipeto, on a parlé encore des mauvaises gouvernances. Et aujourd'hui, c'est le même cas. Le même refrain revient et toujours mis sur la sellette. Il s'agit de la mauvaise gouvernance. Alors, comment vous vous justifiez?
Monsieur le journaliste, depuis que le gouverneur Bolamba est pratiquement aux affaires à la province de l'Équateur, nous avions reçu 3 fois ces 109 millions. Et pour le mois de juin, juillet et août, ces 109 millions, pratiquement pour la paye des salaires. Et 71 millions pour juin et juillet pour les frais de fonctionnement. Je ne sais pas, mais la surface pratiquement de la province de l'Équateur est équivalent à Congo-Brazzaville plus le Gabon. Dites-moi, qu'est-ce que les gens peuvent faire avec 150 000 dollars pour gérer un grand territoire tel quel? Le gouvernement passé recevait 944 millions pour les 24 territoires de la province. Si on divise par 24 et on multiplie par 7, il devait nous revenir à peu près pour nos 7 territoires 275 millions. Nous ne les avons pas.
Mais alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme un aveu d'impuissance? Mais si oui, pourquoi accepter cette responsabilité dès lors que vous le saviez que la province n'avait pas autant de ressources pour arriver réellement à atteindre l'objectif escompté par rapport à la loi sur la libre administration des provinces?
Ce n'est pas un aveu d'impuissance. Quand le gouverneur Bolamba est venu aux affaires, on ne lui avait pas dit qu'on lui donnerait que 79 millions. Quand on l'avait voté, on ne lui avait dit pas dit ça.
Mais on savait, il savait au moins qu'il y avait un problème de rétrocession qui s'est posé avec acuité, non seulement pour la province de l'Équateur.
Il n'y avait pas un problème à cette époque-là, parce que l'argent venait ici. Et je sais qu'il y avait mes gestions, mais c'est ce qu'on ne peut pas nous accuser de ça, parce que je vais vous donner un petit exemple. On a vécu ici et le président de la République a remis 10 millions de dollars pour qu'on puisse construire la cité de gouverneur dans cette province. Et cet argent n'a pas servi à la construction de la cité de gouverneur. On a réhabilité à crédit les bâtiments de l'UNESCO que nous appelons ici communément 6 maisons. Mais les gens n'en parlent pas, hein. Ces 10 millions se sont volatilisés, les gens se sont distribués et à Kinshasa et ici. Et la province est en train de continuer à subir, mais les différents contrôles et de Kinshasa et d'ici n'en parlent pas. Et quand vous dites qu'il y a un malaise, il y a une équipe des gens mal intentionnés qui sont en train de faire leurs commentaires. Ça se fait tout le 20 de chaque mois. Tout le 20 de chaque mois, il y a une équipe des gens, des mécontents, qui n'ont plus accès aux reliquats des payes, des primes, qui sont en train de s'acharner sur le gouverneur.
Que je sache, le gouvernement, votre gouvernement, avait présenté un programme devant l'Assemblée provinciale de Bandaka.
Oui.
Puis avec quelle priorité et avec quels moyens?
Nous avions, à ce que je sache, 4 mois d'exercice. Nous avions pris nos contacts parce que nous sommes là pour relever un défi. Nous sommes nés ici, on est en train de travailler.
Le contenu de votre programme?
Le contenu de notre programme, nous devons l'appliquer. Nous devons amener la lumière ici.
C'est avec quel budget? Le budget et la mobilisation des recettes?
Oh, le budget et la mobilisation des recettes.
Un budget qui tourne autour de combien?
Le budget qu'on nous donne ici, on nous donne 30
millions. Qu'on vous donne, que vous avez élaboré vous-même.
Non.
Je crois que ce n'est pas un budget qui est tombé du ciel, même, M. Dédonné.
Il n'est pas tombé du ciel. On a 37 milliards et 27 milliards sont repris pour les charges transférées et le solde, c'est ce que nous avons. Mais on ne peut pas compter rien que sur ce budget-là. Parce que sur ce budget-là, les investissements sont
énormes.
45% des électeurs sont retirés d'office à Kinshasa. Et à Kinshasa, les investissements ne viennent pas parce que nous venons de créer notre marché public que nous sommes en train de construire ici. Mais dans l'entretemps, il y a des gens qui s'arrangent pour s'arroger des marchés là-bas sur la province et les crédits tombent. À chaque fois, il n'y a rien ici. Nous n'avons rien trouvé.
Alors, la part allouée
à propos de la régie,
oui.
Parce que vous en avez parlé. La régie, à l'époque, avait 594 agents. Aujourd'hui, on en a 140. Nous avons 100 et une taxe. Mais malheureusement, nous avons trouvé cette régie par... Il n'y a même pas un vélo pour que les gens passent le recouvrement et qu'on sort. Nous faisons à peu près, avec les moyens de bord, 40...
quelle est la barre des assignations? Quelle est la barre des assignations au niveau de la régie?
Nous comptons aller vers 300 millions par mois quand nous aurons nos imprimés de valeur et les moyens de locomotion. On a eu à traiter avec Profit Congo et la Banque mondiale et nous aurons tout ce matériel-là. Vous pouvez vous renseigner. On est en train d'attendre les imprimés de valeur et tout. Et nous avions fait le recensement pratiquement au niveau de la ville pour les recettes et les taxes. Le domaine et consorts.
Alors justement, parce que vous parlez des imprimés des valeurs, on vous reproche à votre gouvernement d'avoir changé des armoiries de la République, donc de la province, au-dessus de la Constitution, contre la Constitution.
Contre la Constitution. Je vous rappelle que nous avions eu un arrêté le 2 septembre, l'arrêté 0050. Il y a eu discussion en Conseil des ministres et M. Jean-Pierre Yalé, qui est un artiste, on a demandé pratiquement qu'il nous fasse les avant-rues de la province. Il y a eu un arrêté contresigné par M. Benjamin Lokondo, qui faisait office de ministre pratiquement de culture et art. Et je ne crois pas que avec la tête et les malébos pour le gouvernement provincial de Kinshasa, les armoiries de Kinshasa, je ne sais pas, ils sont constitutionnels aussi.
Voilà, alors, on va droit au but, deux tiers des ministres démissionnent dans un gouvernement. Est-ce que cela ne veut pas dire que cette majorité-là qui décrit la mégestion a raison par rapport à la minorité qui est restée?
J'étais avec vous et M. Lokondo ici, toujours à Radio Okapi. Vous aviez parlé de démission. Vous savez, quand un gouvernement commence, il y a toujours des recommandés. Bon. Ces recommandés, ils dépendent de leur autorité morale, des autorités de tutelle et consorts. Et quand ils démissionnent, s'ils disent c'est pour mes gestions, cela, c'est eux qui le disent.
Mon hein. Gouvernement.
Oui, je suis aux finances, je sais ce qui se passe, je peux aujourd'hui demander l'autorisation au gouverneur de publier les plans de trésorerie et on peut voir s'il y a une gestion ou pas. On ne peut pas demander à quelqu'un d'opérer un miracle quand il n'a rien dans sa calotte. Hein. On doit être sérieux quand même. Aujourd'hui, il y a des contrôles. Le gouverneur a initié un contrôle sur les payes et contrôle, et les gens sont en train de crier. Il y a eu une plainte pour détournement portée contre le gouverneur, le ministre des Finances que je suis, et un comptable. Cette plainte a été portée à Kinshasa et le premier AGR, Ikobia, est venu ici pour une enquête judiciaire. Et les gens se sont enfouis. Certains étaient arrêtés. Je me pose la question de savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est, parce que la Jéricho bien va faire pratiquement son rapport.
D'accord. Alors nous regardons
les détournements.
Oui.
Attendez que j'achève.
Oui, allez-y rapidement parce qu'on doit ouvrir les standards.
On lui rapproche les détournements. Mais les reliquats qui restaient ici avant l'avènement de M. Bolamba comme gouverneur à l'Équateur. Qu'est-ce qui peut nous indiquer où on les déposait dans le trésor public? Personne. On n'en parle pas.
Mais de toute façon, on va y revenir pour voir un peu les aspects principes de continuité. Parce que nous l'avons dit, la situation ne date pas d'aujourd'hui, ça vient de très loin. Aujourd'hui, vous devez assumer votre part des responsabilités, tout en sachant qu'un homme d'État, en fait, fonctionne et son fonctionnement repose sur le principe de continuité de la chose publique. On va ouvrir les standards et on va écouter les auditeurs qui nous ont rejoints également à ce niveau du débat. 081-890-6315 pour votre intervention directe.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Voilà, merci à vous tous qui avez déposé vos messages sur notre page Facebook. Vous êtes en Bandaka, à l'étranger, et partout où vous nous suivez, notez que les débats s'étaient également sur notre page Facebook. Wina, vous êtes en Bandaka, merci de nous rejoindre. Vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Quel est votre avis par rapport à ce débat? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la demande des députés, un groupe de députés, voulais-je dire, de Mbandaka, qui demande à ce que les ministères de tutelle puissent d'abord commencer par annuler les actes que venait de poser le gouverneur avec des armoiries qu'il a pu changer, et aussi de prendre en compte la question sur la mauvaise gouvernance dont on reproche à l'actuel gouvernement provincial. Quel est votre commentaire?
Bonjour. Le problème des armoiries, c'est un problème secondaire. Le problème de la province de l'Équateur, c'est plus grave. J'ai suivi le ministre des Finances provincial qui a parlé tout à l'heure, qui parle de tout et de rien. Aujourd'hui, à l'Équateur, c'est un problème de comportement et de gestion du gouverneur, de la personne du gouverneur. Je ne sais pas si vous avez pu avoir accès à la motion qui a été dernièrement déposée à l'Assemblée contre le gouverneur. En tout cas, j'ai retenu quelques éléments. On y parle des retournements, il y a des montants qui s'étalent, de la mauvaise gestion, d'abus de pouvoir. Écoutez, j'ai devant moi ici deux documents, des détournements, des montants qui s'étalent, il y a moins de griefs. Et je prends seulement un de griefs. Détournement des recettes provinciales de la DGRPEC au profit du gouverneur de province, soit 80 452 dollars et 84 922 francs congolais pour le compte, sans tenir compte de 8 milliards des grandes entreprises basées à Kinshasa. Par contrainte de temps, je ne sais pas si on peut aller en profondeur, mais non, le problème à l'Équateur, c'est l'individu Bolamba. Et tout cela s'explique par le fait que le gouverneur n'a pas d'expérience de gouvernance. Tout part de là. M. Bolamba n'a jamais exercé auparavant aucune fonction
publique. Je crois que nous allons recadrer un peu le débat. Nous devons nous éviter des jugements de valeur, d'autant plus que si aujourd'hui on va parler de Bolamba comme un gouverneur inexpert, je crois que il y a d'autres exemples aussi qu'on pourrait citer ailleurs. Mais le débat n'est pas là. Parlons des faits.
Le débat est là. Les gens comprendront ce qui se passe à de la province.
Il y a
deux choses aujourd'hui. Il y a deux choses.
Si on peut s'écouter, je peux vous
gouverneur. Vous parlez d'armoirie, vous parlez de la gouvernance.
Oui.
Mais qui pose des actes? C'est le gouverneur.
Oui.
Ok. Et on comprend que par les causes. Et tant qu'on ne va pas en profondeur pour expliquer pour que les gens comprennent que le gestionnaire est incompétent.
Oui, aujourd'hui, est-ce que vous allez attribuer les compétences aussi à tous ces gouverneurs qui ont précédé, notamment M. Makila, à qui on a reproché le détournement, Koya Diallo, qui a été désavoué par certains députés, il y a Ipeto et tant d'autres, pour ne pas tous les citer. Il y a eu des cas.
Allez, pour que vous puissiez comprendre.
Oui,
allez, je dirais qu'il y a deux choses. Actuellement, la situation est présente sur Bolamba et une logique politique qui explique le désordre qui connaît l'équation depuis 5 ans. Et cette logique est développée, entretenue par la majorité présidentielle. Alors, je ne sais pas si on pourrait s'étendre là-dessus, mais revenons à la gestion de la province. Vous parlez d'armoirie. Est-ce qu'on va faire un débat sur l'armoirie?
Oui, je
relève de l'incompétence du gouverneur.
Oui, est-ce que je vous
dis? Vous parlez de la mauvaise gouvernance.
Oui, je vous dis.
Je souhaiterais qu'on ait en profondeur.
Oui, on ne peut pas passer 5-10 minutes à ne parler que d'un individu. Et pourtant, nous parlons.
Dans ce cas, si on ne parle pas du gestionnaire, nous allons parler de quoi?
Nous parlons de la mauvaise gouvernance, de la gestion de la province par rapport à la décentralisation.
Mais attends, où on fait un débat général, intellectuel.
J'aimerais bien que vous abordiez les questions de la
fait. Le débat politique en portant sur des faits.
Oui, allez.
Je souhaiterais que nous entrions dans les faits. Nous parlons de la province de l'Équateur.
Tout à fait.
Moi, je vis en Bandaka, ok. J'ai été conseiller principal dans des précédents gouvernements provinciaux, provinciaux.
Voilà. Donc, vous n'êtes pas la province. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Wina, parce que vous êtes jugé parti. Vous avez été déjà conseiller. Donc, je crois que vous maîtrisez quand même beaucoup de choses. Hein. Nous ne pouvons pas vous garder le plus longtemps possible dans cette émission pour que vous. Ça sera peut-être de. Deux sont des cloches, bon, ce n'est pas le but d'ailleurs de cette émission. Merci beaucoup, Wina, d'avoir appelé de Bandaka. Maître Jean-Paul, vous êtes en Bandaka également. Bonjour, maître.
Bonjour, JR. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Alors, aujourd'hui, la grande question qui se dégage, pourquoi en Bandaka ou à l'Équateur, on n'arrive pas à mettre effectivement en route, hein, la mise en route de la décentralisation avec succès au regard de la démission ou encore de la destitution de différents gouverneurs qui se sont succédés. Et aujourd'hui, on sent que la situation est loin de trouver une solution. 50%.
Bon, dans ces deux, nous voulons relever un aspect des choses. J'ai à Grande-Bretagne, d'où d'ailleurs on tire certains éléments où on fait la combinaison de notre régime politique. Le régime parlementaire, le Premier ministre a été toujours invité deux fois la semaine devant l'Assemblée nationale pour répondre aux questions orales. Mais ça pose un problème. L'Assemblée provinciale qui avait élu le gouverneur Tony Boulamba, qui est en train aujourd'hui d'obstruer les motions initiées contre les gouverneurs. On ne comprend pas. Celui qui se dit démocrate ne peut pas avoir à peur des disciples. C'est là où il doit rendre compte.
Voilà, Maître Jean-Paul.
Donc,
Maître Jean-Paul. Qu'est-ce qui serait à la base aujourd'hui de manque de confiance entre la population qui est représentée par les députés provinciaux et les différents gouverneurs qui se sont succédés, donc l'exécutif provincial, les différents gouvernements? Est-ce qu'il y a un problème sur le plan juridique ou il y a un problème sur les comportements des individus?
Il y a un problème sur le plan juridique pour dire que l'Assemblée provinciale vient en prendre de nouveau la Constitution. Et les bureaux ne peuvent pas obstruer une motion qui est initiée contre le gouverneur, l'intentionnaire de la province. Il doit faire l'inventaire de ce qu'il a promis, ce qu'il compte faire.
Donc, si je comprends bien pour vous, la difficulté aujourd'hui, la démocratie, l'expression telle que les gens le souhaitent au niveau de Bandaka, c'est la manque. Et vous le comparez pas seulement pour ces gouvernements de Tony Boulamba, mais aussi d'autres gouvernements qui ont précédé.
Bien sûr, la violation de la loi est à tout moment. C'est comme si nous n'avons pas de loi qui nous régisse. Et ça vient aussi. Je peux dire que le gouvernement central était allé trop vite en besogne. Il s'est posé un problème de financement aujourd'hui dans d'autres nouvelles provinces. Avec la décentralisation, moi je connais bien lorsqu'on votait la loi sur la mise en place des nouvelles provinces. Les députés avaient posé la question à Matata Tapone. Est-ce que vous serez cumulé la préparation, le préparatif des élections et la décentralisation en même temps? Qu'est-ce que le gouvernement avait dit? Le gouvernement avait proféré oui, nous en sommes responsables. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Au détournement. Peut-être que Tony Boulamba n'a rien dans sa caisse. On l'accuse peut-être pour rien de mal gestion.
Merci beaucoup. Alors pour vous, il y a beaucoup de choses qui demeurent un peu floues, parce qu'on ne sait pas dire exactement. Nous avons suivi d'ailleurs notre invité tout à l'heure qui évoquait la trésorerie de la province qui souffre déjà, parce que bon, la régie même arrive difficilement à mobiliser les recettes, et c'est que le gouvernement a comme besoin, la province a comme besoin sur les réalités ou les priorités sociales. Avec les recettes qu'on a, donc cela ne peut pas résoudre clairement les problèmes. Voilà, on va voir ça avec notre invité qui est à Rennes. Alors, ingénieur Valérie, vous êtes avec nous. Bonjour, vous êtes à Kindu.
Bonjour, J.R. Louis Dembo, Lakungandi. Ok, mon frère, Je salue également tous nos auditeurs de la radio Capi. Moi, je pense que le problème de l'Équateur, c'est un problème. Disons, à l'Équateur, nous avons un problème d'hommes et un problème de culture politique. Pourquoi je dis un problème d'hommes? Parce que c'est depuis très longtemps que nous assistons toujours à des conflits inutiles au niveau de la province de l'Équateur. Figurez-vous que depuis que nous avons commencé ce système des assemblées nationales et gouvernements provinciaux, la province de l'Équateur, l'ancienne Équateur bien entendu, est celle qui a produit le plus de contentieux sur le plan politique. Avec le changement de gouverneur, de ceci, cela, ainsi de suite, finalement, on ne comprenait pas ce qu'il y a. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, vous avez constaté encore dernièrement que lorsqu'il fallait parler de l'élite, la province de l'Équateur venait de produire 13 élites, dont 9 anticonstitutionnels. Vous comprenez quelque part qu'il y a un peu du sentiment. Alors, moi, je ne comprends pas. Moi, je pense que, à supposer, par exemple, nous avons entendu le ministre des Finances qui nous dit tout à l'heure, qui nous parle tout à l'heure de problèmes de finances et tout ça. Mais si les finances, il n'y en a pas comme il se devait, c'est qu'il y a un problème d'homme. Les autres n'avaient qu'à comprendre. Si les autres aussi, si le gouverneur aussi, il a la même gestion. Mais l'Assemblée provinciale n'a qu'à l'inviter et prendre aussi des mesures qui s'imposent. Comment se fait-il que c'est depuis longtemps, on parle toujours de la même gestion, l'Assemblée provinciale est là, le gouvernement est là, et on assiste toujours à des phénomènes tout à fait honteux. Alors, quelque part, moi je crois qu'il y a un peu de culture.
Oui, madame Valérie, parce que vous êtes aussi, vous êtes expert quand même, l'occasion fait gagner la ronde, vous avez quelques notions sur la décentralisation, vous évoquez les cas de Mbandaka, mais les Mbandaka n'est pas le seul hein, à connaître un peu des difficultés sur le plan, comme vous l'avez dit, qui a produit beaucoup plus de contentieux politiques, mais il y a également le Sud-Kivu, aujourd'hui, qui a du mal à battre, en tout cas, la décentralisation bat encore de l'aile dans cette partie du pays. Est-ce qu'on peut mettre ça dans les comptes de l'échec aujourd'hui de préparatif de la décentralisation, de la mise en œuvre de la décentralisation dans ce pays?
Partiellement, je dirais oui, au motif que nous sommes allés peut-être juste au moment où nous nous plaignons aussi des contraintes budgétaires, parce que vous avez remarqué que nous sommes en train de dégringoler avec le budget. Avant-hier, on était à 8 milliards, hier, on était à 6 milliards, pas plus longtemps que hier, j'apprendrai que nous sommes maintenant à 4 milliards quelques. Je crois que devant ce genre de contraintes, on ne devrait pas précipiter de passer de 11 à 26 provinces. Parce qu'aujourd'hui, nous apprenons même qu'il y a des arriérés de salaire au niveau du gouvernement provincial, assemblée provinciale. Alors, je crois que dans cette optique, il aurait fallu d'abord les laisser 11, en attendant que nous remontions un peu avec les recettes pour augmenter aussi les charges. Là, partiellement, oui. Mais au-delà de cela, il y a ces problèmes d'hommes. Parce que la décentralisation s'est faite partout. Mais pourquoi seulement des problèmes à l'Équateur depuis le tout premier gouvernement? J'ai été personnellement en Mbandaka, en Guadeloupe, à Gemena. En Mbandaka, j'ai été à deux reprises. Une fois en 2006, une fois en 2011. L'objet du gouvernement dont on parle là, oui, j'en connais quelque chose. C'est sur la prise de Seco. Mais vous comprenez que quelles aventures ont commencé il y a très longtemps. Moi, j'étais en Mbandaka. Lorsque le gouverneur allait en mission, il laissait l'intérim, non même pas au vice-gouverneur, mais au ministre près de gouverneur. Vous comprenez que, au niveau de la culture, au niveau de l'application des textes, la province de l'Équateur doit quand même faire un effort. J'aurais préféré que les notables de l'Équateur, tous ces politiques que nous avons, Jacques Njoli, Thomas Lokondo, les gens que je trouve un peu plus rodés en droit et autres, ils doivent quand même se réunir avec les autres politiciens pour se dire, mais qu'est-ce qui fait que nous présentons vraiment beaucoup de vérités sur la scène politique. Et aussi le peuple, de son côté, quand il faut élire, le peuple doit éviter aussi les sentiments, les histoires de Wissou Laïsso, Bukila Lokondo. Ce sont des choses qui amènent à produire des députés et des ministres parfois qui présentent des quelques scénarios honteux.
Alors, je comprends bien votre souci. Aujourd'hui, Mbandaka a un problème de la cohésion provinciale. Au niveau de la province, il n'y a pas cette cohésion. Il faut d'abord commencer préalablement par chercher cette cohésion entre les notables qui parfois ne partagent pas le même point de vue. Ben, selon une indiscrétion, il y a même certains notables qui ont recommandé certains ministres qui étaient dans ce gouvernement qui a connu des défections.
Oui, dernièrement, il y en a eu aussi dans la province de Mongala. Vous avez appris que notre ministre a démissionné dans la province de Mongala. Donc, vous comprenez que ça ne va pas. On doit quand même mettre un peu de l'ordre. C'est le notable se réunisse comme je viens de le dire là.
Il n'a pas de leur intérêt. Oui.
On va donner intérêt.
Merci beaucoup, ingénieur Valérie, pour vous. Donc, c'est un problème de respect des textes. Je crois qu'à ces niveaux, il faudrait, si on peut aller peut-être plus loin, pour demander au ministère des tutelles de pouvoir être un peu regardant. C'est vrai, on a comme l'impression que les problèmes de l'équateur démembré aujourd'hui est vraiment, disons, loin d'être un problème plus simple. C'est comme si c'était quand même une épine sur les pieds du ministère des tutelles. Merci beaucoup. Alors, Martin, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
Quel est votre avis, monsieur Martin?
Oui, mais d'abord, merci à la radio Capé. Je voulais dire ceci. Ce qui s'est passé à Mandara, ce n'est qu'une illustration. Ce qui se passe dans l'ensemble des nouvelles provinces. J'ai eu la chance d'être dans beaucoup de nouvelles provinces, mais comme contact personnel, il y a beaucoup de gouverneurs qui n'ont même pas d'habitation, beaucoup n'ont même pas un bureau. Des députés provinciaux qui ne font que des débats sous les arbres, bon, c'est très grave, mais je ne sais pas ce qui se passe en réalité en Équateur en ce qui concerne tout ce que je viens d'évoquer. Mais de toutes les façons, la méthode de décentralisation, comme nous le constatons, vraiment, si même aujourd'hui ça ne se passe seulement à l'Équateur, prochainement ça peut s'emballer dans toutes les autres provinces si on n'en tire pas attention. Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup Martin. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont envoyé le message. Il y a Alain Bolodjoie, je crois qu'il va appeler peut-être d'un moment à l'autre, qui avait souhaité d'ailleurs intervenir en direct. La situation de la province de l'Équateur devient de plus en plus préoccupante. Nous constatons que ce sont les Équatoriens eux-mêmes qui s'obstinent à garder cette province dans le rang du maillon faible du pays. Ces dirigeants semblent oublier qu'il s'agit d'une province à forte concentration de pauvres au lieu de étaient les fondamentaux du développement, ils s'évertuent à favoriser plutôt des blocages inutiles, alors que les autres provinces cherchent à s'adapter dans la nouvelle configuration politico-administrative. Ces dirigeants pataugent encore dans la gestion des humeurs. Il aurait été judicieux que l'Assemblée provinciale se prononce ça sur les cas du gouverneur de qui il en est l'émanation. Par manque de maîtrise du principe de séparation des compétences, ces députés se perdent à faire appel à l'intervention du ministère de l'Intérieur, une manière pour eux de s'abdiquer de leur rôle régalien. Il est plus que temps qu'une nouvelle classe politique voit les jours, ainsi mettre fin à ce théâtre de chez eux. Voilà, merci beaucoup. Alors, on revient à vous, M. Dieudonné. Lokangé, vous êtes ministre provincial de Finances à l'Équateur. Vous avez suivi les uns les autres. Alors, quelle est votre réaction aujourd'hui? Est-ce un problème de respect des textes qui crée toute cette difficulté?
Vous savez, monsieur le journaliste, la culture de l'excellence est devenue un problème au niveau de l'Équateur. Monsieur Wina Lokondo, qui a été le premier à intervenir, a dit que je disais n'importe quoi et qu'on sort. Mais il était secrétaire particulier d'un gouvernement, et le gouvernement le plus mauvais, parce que je fais partie des habitants de l'Équateur, je suis né en Mbandaka. Je ne sais pas si on doit traiter les problèmes de la province avec nos sentiments, mais sachez que cette province, on a pratiquement détruit son administration, on l'a politisé, on a tout détruit et on est en train de construire et de reconstruire l'administration de cette province. Et la question financière est tout. Et les gens ne veulent pas de ce changement. Ce changement fait fâcher ceux qui vivent. C'est un problème de cette province.
Monsieur le ministre, en résumé, en 3 ou 4 lignes, comment se présente votre plan de redressement de la province?
Cette province ne peut pas se redresser si on ne remet pas l'administration sur les rails. Et c'est ça la présence des arrêtés et de tout ce qui se passe sur le plan de l'administration chez le gouverneur. Nous prenons beaucoup de temps dans le redressement de l'administration parce que l'administration, c'est le socle. C'est la colonne vertébrale du développement de la province. On a détruit pendant des années, plus d'une décennie, on a politisé l'administration, on en a fait je ne sais pas quoi, vous trouvez des chefs de secteur, c'est mis les traits, où il est très.
et des gens qui ne savent même pas écrire leur nom et consorts ont été placés à la cause de leur militantisme par des partis politiques par-ci par-là. Et vous voulez qu'en 4 mois, un gouvernement vienne faire le miracle?
Non, nous,
mais
nous,
ne faisons pas comme ça.
Nous ne faisons pas le bilan de votre gouvernement, non. Mais nous disons, vous avez dit le plan de redressement.
Je ne vous accuse pas de cela.
Oui, le plan de redressement.
Je ne vous accuse pas de cela.
Oui, vous avez dit le plan de redressement repose d'abord.
Le redressement
oui,
de l'administration.
Et ensuite?
La base, le socle de l'Europe, c'est l'administration.
Et ensuite?
Ensuite, sous l'administration, redresser les finances. Et par la suite, commencer à greffer les plans de développement petit à petit. Et c'est à ça que nous sommes en train de nous acheminer. Mais le temps, bon.
Et ce programme, vous l'inscrivez.
C'est le temps qui doit agir.
Oui, ce plan, vous l'inscrivez sur long terme, à court terme ou à moyen terme?
Nous avons des urgences à court terme, des urgences, et nous avons des urgences urgentes, donc qui sont à court terme. Et nous avons des urgences qui sont à moyen terme et des urgences à long terme. Peut-être nous commencerons la fondation et ceux qui nous remplaceront seront le reste.
Alors, un petit mot à court terme, quelles sont les priorités?
À court terme, nous sommes en train de redresser la territoriale et établir l'électricité dans cette ville de Mbandaka qui est devenue un grand village.
Et vous vous basez sur quel document juridique? Qui vous donne ces compétences, parce que en lisant la Constitution, les compétences exclusives des provinces, et je crois que à la matière, il va falloir que vous référez à la loi sur la décentralisation des provinces, de la fonction publique en province.
Qu'est-ce qui vous dit qu'on ne va pas le faire en suivant la loi? Parce que tous les cadres de la province sont mis à la disposition du gouverneur de province, à ce que je sache.
Tout à fait.
Ah bon, heureusement que vous rappelez, parce que moi je ne suis pas amnésique, je sais que c'est comme ça. Et quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous et qu'il ne veut pas travailler selon notre vision, je crois qu'il peut aller chez son secrétaire général, se mettre à sa disposition.
Merci beaucoup, on vous garde
en ligne. Moi je ne trouve pas autrement.
Voilà, on vous garde en ligne, le temps peut-être d'évoluer un peu dans les débats. Il y a en fait l'aspect cohésion provinciale aujourd'hui. Est-ce que ça ne peut pas être l'idéal pour arriver quand même à résoudre ce problème qui devient quand même une hémorragie, hein? On n'arrive pas à l'arrêter et qui va causer du tort pratiquement à la population qui attend, en tout cas de pied ferme ou encore à bras ouverts, le développement de cette partie du pays.
Bon, ça dépend de la manière dont vous regardez les choses, hein, parce que la cohésion, c'est le peuple qui va le dire, ce n'est pas un individu qui sort avec son micro qui le dit. Moi, personnellement, je ne peux pas faire de commentaires dessus, mais je sais que le gouvernement qui est sorti aujourd'hui, c'était un gouvernement des autochtones, qu'on a puisé des technocrates sur place ici, qui sont là, qui se défendent.
Mais quand vous les appelez des technocrates, ceux qui étaient avant, ils n'y étaient pas?
Je me réserve de tout commentaire. C'est la population qui dira demain qui a fait quoi, qui est qui.
D'accord. Alors, on va poursuivre le débat avec vous, Malonga. Vous êtes dans le banc d'Ondouville. Malonga, vous êtes avec nous en deuxième ligne. Malonga, vous êtes avec nous? Voilà, on a discuté avec la ligne de Malonga dans le banc d'Ondouville. On prend l'honorable Bayende Yeti, qui est en Mbandaka. Honorable, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes l'initiateur de cette motion, au fait de cette déclaration, hein, faite sur Radio Capi, en trois lignes, sans verser dans le jugement des valeurs. Aujourd'hui, sur le plan, sur les faits, est-ce que vous pensez que le problème, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, le gouvernement actuel hérite d'une situation qui date de longtemps, depuis le gouvernement de José Makila jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, comme les autres, qu'il y a réellement un problème de cohésion provinciale?
Bon, s'il y a réellement un problème de cohésion, je ne soutiens pas totalement, mais néanmoins, nous savons que, parce que vous avez parlé des gouverneurs qui se sont suivis, Makila et tant d'autres, mais je voulais vous faire remarquer que le gouverneur On a changé pas seulement le gouverneur, mais on a changé aussi le président du bureau de l'Assemblée provinciale. Tout simplement parce qu'il y a clientélisme entre le gouverneur et les membres du bureau qui justifient soit les pourboires ou les collations que le gouverneur leur donne. Au détriment donc de l'instrument parlementaire, comme des contrôles. Et vous savez, en République démocratique du Congo, la fonction parlementaire de contrôle est avant tout une affaire constitutionnelle. Et ce qui lui confère, du reste, est tout son politique et juridique. Mais voilà pourquoi nous sommes dans notre sixième moyen de contrôle que le bureau connu d'aujourd'hui constitue d'obstacle au renouvellement sans qu'on puisse contrôler le gouvernement. Nous avons trouvé que le clientélisme ne permet pas qu'on puisse marcher. Autant mettre fait ce système.
Alors
hier, j'avais suivi même le gouverneur.
Oui, vous avez dit que tous ces gouvernements qui ont succédé ont été caractérisés par le clientélisme que donc vous voulez mettre fin. Mais il y a des mécanismes législatifs pour y arriver, par exemple.
Les contrôles parlementaires, c'est un instrument de bonne gouvernance.
Mais c'est ce que les gens réclament. Voilà. C'est ce que les gens réclament aujourd'hui.
Le contrôle est un vecteur de bonne gouvernance et qui développe certaines valeurs, notamment l'état de droit, la responsabilité et la gestion des ressources humaines, des ressources de la province.
Alors, parce que vous honorable Bainé, parce que vous parlez des détournements, dans votre déclaration, vous avez dit qu'il y a détournement et tout, et enrichissement illicite. Pourquoi nous n'avons pas pu inviter ou interpeller le ministre des Finances, qui nous suit d'ailleurs dans cette émission, pour se justifier et vous présenter le plan de la trésorerie de la province.
Mais le ministre, là, il est au courant qu'il y avait une interpellation à sa charge et que le président, le bureau de l'Assemblée, lui, là, le ministre, il avait constitué l'enveloppe pour voir le président de l'Assemblée et qui a déclaré que cette motion avait un sens parce que selon lui, il n'avait pas courtoisé dans la rédaction de la dite interpellation. Voilà la raison.
Voilà, merci
alors
beaucoup.
Pour nous, c'était pour l'air interpeller et dire, voir comment c'est en train de gérer, parce qu'on savait qu'il y a des difficultés. On vient de démontrer la province, il faut voir, parce qu'il y a eu pléthore. Bon, on a hérité la province, on a hérité même les chefs de division, les personnels qui étaient ici, qui n'ont même pas parti dans d'autres provinces. Donc il y a une charge d'enlever, appeler chacun des ministres pour qu'on puisse discuter avec eux et voir dans quel moyen possible on peut faire des édits pour leur donner le moyen de travailler.
Alors vous êtes au courant
d'une interpellation, question orale avec débat, trouver que c'est déjà un problème, on va le faire partir.
Voilà.
Je serai pas venu. Monsieur le Président fait quelque chose, et voilà.
Voilà, honorable Bainé, je crois qu'au niveau de l'Assemblée provinciale, vous êtes au courant du plan de redressement de la province présenté par le gouvernement provincial. Quel est votre commentaire par rapport à ce plan de redressement que vous avez été brossé d'ailleurs en trois lignes par notre invité tout à l'heure, qui passe par la réponse au fait de l'assainissement de l'administration publique, les finances, et aussi le plan de développement.
Monsieur le journaliste, c'est vraiment un plan fantaisiste.
Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire?
La gestion est vraiment opaque et fortement centralisée. Au point que vous êtes au courant qu'il y a eu 7 ministres qui ont décidé de partir et d'abandonner le gouvernement.
Oui, nous l'avons évoqué, les raisons avec l'autorité, mais de toute façon, est-ce que, quand vous dites que c'est un plan de redressement fantaisiste, quel est votre argumentaire, en fait, scientifique, qui pourrait casser ce plan de redressement?
Ben, écoutez, nous voulons que le fait que nul ne peut se mettre au-dessus de la loi et que tout manager public ou privé doit gérer et agir, se comporter conformément aux lois et aux règles établies.
Établi. Merci beaucoup.
Et devant sa responsabilité,
Merci beaucoup, honorable Bayende Yeti, de nous rappeler de Bandaka. On va prendre notre auditeur qui nous a rejoint, Maître Laurent. Vous comprenez que nous l'avons gardé un petit moment avec des questions de relance, parce que, bon, il a appelé depuis Bandaka, là où se pose cette situation. Maître Laurent, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci beaucoup, JR. En tout cas, moi, surtout, j'adresse mes sincères félicitations à la population de l'Équateur. Et vous savez pourquoi j'adresse mes félicitations? Donc, c'est par le fait qu'elles disent tout ce qui se dit tout bas. Ça, c'est le fait, ce qui se passe à l'Équateur, mais c'est ce qui se passe au niveau national, non? Mais sauf qu'au niveau national, ici, les gens ont peur parce qu'il y a des arrestations, il y a des tueries, tout ça, quand on dénonce. Alors, mais on est à l'Équateur, les gens se sont manifestés publiquement pour montrer l'opacité de la gestion, pour montrer l'enrichissement illicite. Donc, c'est le reflet dans toutes les provinces, sauf que les autres provinces, ils ont peur de dénoncer. C'est ça. Ne pensez pas qu'il n'y ait qu'à l'Équateur où ça se passe. C'est pratiquement dans toutes les provinces, je dis bien, toutes les provinces. Donc, quelle province ne peut se dire qu'ils gèrent mieux que l'Équateur? Hein? Ce n'est que les opérateurs privés qui essaient un peu de faire, mais l'État, avec une miette, se fait voir pour la publicité de ceux qui gèrent. Donc, sincèrement, je félicite la population de l'Équateur à travers quelques individus qui manifestent publiquement et je leur dis qu'ils continuent à le faire.
Mais Maître Laurent, parce que vous êtes à Kinshasa, hein, l'occasion c'est ça de la rendre, nous sommes en train de voir aussi, nous l'avons dit aujourd'hui, la situation de Mbandaka ne peut-elle pas, disons, nous pousser à dire que, effectivement, cela constitue un échec dans les préparatifs de la décentralisation, la mise en route de la décentralisation. Et vous êtes à Kinshasa, en jetant un regard, pensez-vous qu'aujourd'hui le plan de redressement de la ville province de Kinshasa en souffre autant comme à Mbandaka par exemple, avec des problèmes de cohésion provinciale, bon ici avec les chefs des institutions, peut-être les problèmes ne peuvent pas se poser, mais la gouvernance pose-t-elle un problème aussi?
Bon, alors le sujet.
Oui, allez-y, Laurent.
Oui, ok, je voulais dire ceci. Le plan de redressement, je ne vois pas un plan de redressement qui peut être un plan mauvais. Mais on le fait seulement juste pour se maquiller qu'on a un bon projet. Est-ce que pour l'application, ça ne s'applique rien du tout? Parlons même de la ville de Kinshasa. Vous savez le problème qui vient de la ville de Kinshasa. Est-ce qu'on peut trouver une solution au vrai problème de la ville? Prenons seulement le cas de l'eau et de l'électricité. Est-ce que vous voyez de l'électricité à Kinshasa? Vous voyez de l'eau à Kinshasa? Comment les gens perdent par rapport à ce que c'est un bon produit là? Hein? Et on n'y est qu'il reste. Donc le plan de redressement, c'est bien. Mais je vous dis ça. Vous savez que même au niveau des provinces, pendant la décentralisation, il n'y a pas un seul gouverneur qui est passé de l'opposition. Même celui dont on a pensé être de l'opposition, mais en toute réalité, il y a une connivence toujours du président. Donc c'est ça la réponse. Donc le rôle de la gestion de la majorité, parce que tous les gouverneurs, les ressemblés qui sont là, c'est pour la majorité. Voilà. Donc on n'a pas à s'étonner, quel que soit le plan qui peut être aujourd'hui élaboré ou quoi, ce sont des bons plans, mais qui sont juste pour maquiller, pour montrer qu'on est de bonne foi pour développer le pays ou la province, mais en toute réalité, on ne travaille pas pour ce développement-là, on travaille pour soi-même, pour consolider le pouvoir, c'est tout.
Voilà, je crois que nous devons tous nous donner quand même ce luxe-là de lire un peu la Constitution qui évoque les compétences exclusives aux provinces, parce qu'il y a quand même certaines compétences qui sont revolues uniquement au gouvernement central, notamment des travaux du genre donner accès à l'eau potable et également à l'électricité. Donc, je crois qu'il y a intérêt pour tout et chacun de nous de pouvoir lire ces dispositions constitutionnelles. Merci beaucoup, Maître Laurent, d'avoir appelé l'équipe. Alors, Maître Olivier, vous êtes à Badolité, dans ces grands équateurs démembrés. Olivier, vous êtes avec nous?
Et je suis avec vous, monsieur. Bonjour également à vous.
Quel est votre avis à ce niveau des débats?
Bon, monsieur Gilles, je dirais qu'à mon humble avis, l'administration en RDC, de façon générale, est polluée. Il faut vraiment une autopsie pour terrasser vraiment le monstre qui pollue l'administration dans notre pays. Alors, mettons l'accent maintenant sur l'administration à l'Équateur. quand nous assistons à ces airs de discorde, on comprend vite que la décentralisation dans notre pays était prématurée. C'est-à-dire que cette décentralisation a été tellement précipitée. Puisqu'en partant vraiment de la définition de la décentralisation, qui était un système d'organisation administrative par lequel l'État permet à d'autres personnes morales que lui d'assurer la gestion des services publics. Et aujourd'hui, si la province a du mal d'assurer la gestion des services publics, on voit vraiment qu'il y a un problème. Alors, à mon humble avis, je récapitule ces problèmes dans quatre niveaux. Il y a le problème d'homme, le problème des ressources, le problème d'applicabilité du texte et le problème de la cohésion. Mais parmi tous ces problèmes, je crois qu'à mon humble avis, le problème qui est très capital, c'est le problème d'homme. Ici, vraiment, il y a un problème d'homme dans le chef de nos dirigeants. C'est-à-dire, dans la plupart des cas, ils visent des intérêts égoïstes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous assistons à ces genres de discorde. Puisque nous ne pouvons pas mettre en priorité le problème des ressources. Puisque quand on est un peu plus loin, on comprend que certains pays ont ressources naturelles pauvres, telles que la Suisse, le Japon, sont aujourd'hui développés en raison d'une administration performante. Aujourd'hui, c'est le problème d'une administration qui pose problème. Alors, à mon humble avis, je pense que l'Assemblée provinciale vit la compétence qu'a cette Assemblée. Il peut seulement peser de son poids en voyant ce qui est essentiel de faire dans l'intérêt général de la population de l'Équateur. Sinon, si nous voulons que tourner en rond, appeler l'intervention du ministère du tutelle, ça ne va pas tenir. Il faut chercher seulement les hommes qu'il faut à la place qu'il faut.
Merci beaucoup, Maître Olivier. Nous poursuivons les débats. Avec vous, Monsieur Diedonné Lokangé, ministre provincial des Finances. Vous êtes avec nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup d'appréhension par rapport à cette question qui soulève les débats ou qui donne l'occasion à chacun de nous de donner sa voix par rapport à la session. Donc, vous avez suivi cette deuxième série des auditeurs, M. Lokangé. Quelle est votre réaction? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de notre invité, M. Lokangé, Diedonné, ministre provincial des Finances. Je crois que notre réalisation pourrait nous aider à retrouver notre invité pour d'autres éclairages. On va prendre Ismaël qui nous a rejoint également à ce niveau du débat, qui est à Lubumbashi. Ismaël, bonjour.
Bonjour Jean-René, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Merci de m'avoir honoré et me donner la parole.
Voilà, Ismaël, vous avez la parole. Quel est votre avis, quelle est votre contribution à ce niveau de débat?
C'est gentil, merci beaucoup. Je pense avec un petit exemple que en Kassai central, c'était le Kassai occidental où le gouverneur a eu aussi des problèmes, c'était avant Kande. Je sais que mon intervention était seulement qui avait voté le monsieur le gouverneur qu'il était parti. C'était le même député qui initiait aussi une motion pour le même député. Je vous donne maintenant mon point de vue. J'espère que les élections en Afrique et en Orient ne se passent pas par la volonté d'argent et de biens matériels. Plus on ne fait pas confiance à celui qu'on a voté et plus on l'a voté pour quelque chose. Là, on ne saurait jamais s'entendre à un résultat et un résultat est escompté. Qu'est-ce qu'on peut faire? On devrait faire affectionner une personne à la place qu'il faut. Cette personne qui est à la place qu'il faut ne suffit pas d'avoir l'argent. Et de l'eau pour nous, la population. J'espère qu'aujourd'hui, la population générale, la population est ignorée à tout ce qui se passe pour la République démocratique du Congo. L'Équateur en premier lieu, l'Équateur en deuxième lieu, l'Équateur. Mais où est-ce que ce genre de personnes veut nous amener? Mais suivant l'intervention du gouverneur, il dit que parce qu'il y avait un laissé. Mais pourquoi il y avait un laissé aller entre les députés et de prendre aussi de prix ou de risque pour telle ou telle personne et consommer? Mais quand celui-ci veut revendiquer ou aligner les choses avec toute clarité, ces derniers s'expriment. Mais quand il y a l'armoirie de ce gouverneur en secret ou l'enrichissement illicite, mais pourquoi il ne devait pas présenter un c'est bien avant qu'il assure cette responsabilité. Parce que le gouverneur est élu par le suffrage indirect. Ce ne sont pas nous, la population, le souverain président qui élit le gouverneur. De ce fait, dans mes recommandations, je dis que tout ça, c'est la loi de la représentation qui élit les députés provinciaux et nationaux qui nous jamais de les affaires. À mon même avis, je sais que les députés retournent, ils annoncent tout ce qui se passe
à l'Assemblée nationale, soit à l'Assemblée provinciale. Pour moi, j'espère que si ces derniers ont eu le courage d'annoncer clairement qu'il ne fait un réel du gouvernement de l'Équateur, j'aurais dit à ce genre d'action, je leur ai dit félicitations. La complicité aujourd'hui politique, concernant de l'opposition de la majorité, nous sommes tenus à voir les intérêts de la population. Mais si ce dernier ne voit pas les intérêts de la population, puisque nous pouvons faire les interrogations des gens eux-mêmes, j'espère que c'est inutile. Pourvu que ce dernier puisse aussi donc assumer son responsabilité, il a fallu qu'il fasse une rétrospection de leur idée sur la Constitution. Il devait qu'il défende l'intérêt de la population. C'est ça, mon humble avis. Merci beaucoup à tous les auteurs de la radio.
Merci beaucoup, Ismaël, d'avoir appelé Lubumbashi Eli. Et le quoi vous avez écrit, comme Timothée Kaping Moloum, qui dit ceci, la situation de la province de l'Équateur semble être compliquée, messieurs les journalistes, comment le gouverneur pourrait gérer une province comme son patrimoine propre. Le gouverneur a été élu par les députés, il a nommé les ministres dans moins de 5 mois, les ministres démissionnent. La question, je me pose, est-ce que dans cette province, y a-t-elle l'Assemblée provinciale? Si l'Assemblée est là, elle peut interpeller le gouverneur. Tony Molamba a sa façon de gérer. Les députés doivent faire avec Eli Lokwa depuis Bokungu. Les problèmes de la mauvaise gouvernance ne pourraient non plus faire l'objet de reproches sur la personne de l'autorité provinciale, car c'est une question déjà usée et organisée par les gouvernements centrales. Nous avons également le message de Kevin Ikoka Bonianga, puisque les actions du gouverneur ne rencontrent pas la volonté de ses ex-alliés, ces derniers veulent à tout prix avoir la tête de l'autorité provinciale. Trésor Likonza, maître Likonza de Kinshasa, je suis le premier à dénoncer cette extravagance du gouverneur de l'Équateur en publiant sur ma page Facebook cet arrêté qui porte deux logos de la République et d'une secte occulte. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va prendre Maître Emergide de Mbandaka, mais il est temps de rappeler à tous les auditeurs qu'ils peuvent également, ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, donc, ils peuvent participer à ces débats comme on fait les autres en déposant, bien entendu, leur message sur notre page Facebook et aussi nous appeler en direct au 081-890-6315 pour participer en direct et aussi contribuer à ces niveaux d'aide. Voilà, il faut encore merci de votre fidélité à Radio Capi. Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen, Maître Emergide. Vous êtes en Mbandaka, vous nous avez rejoint. Merci. Et bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, merci, messieurs les journalistes. Moi, j'ai trois petites questions à poser à notre invité. Et la première, hein, que j'ai bien suivi l'invité, qui a parlé premièrement des armoiries. Des armoiries qui sont placées sous les arrêtés, qui sont les actes que les gouverneurs prennent par rapport à la Constitution comme l'autre vie. Alors, messieurs les journalistes, il y a une petite question à poser à notre invité. La loi fondamentale de notre pays, la Constitution par l'article 1er de la Constitution, prévoit les armoiries de la République démocratique du Congo. Alors, ce qu'on a constaté dans les arrêtés, prenons par exemple l'arrêté concernant portant réaménagement du gouvernement provincial. Cet arrêté comporte au moins 15 armoiries. Alors, c'est une violation de l'article 1er de la Constitution ou pas? Alors, nous disons que si c'est une violation de l'article 1er de la Constitution, est-ce qu'il ne peut-il pas avoir une sanction? Si vous nous répondrez quant à ça, est-ce que c'est une sanction qu'on peut que nous pouvons dire par rapport à cette violation ou pas? Où nous allons toujours encourager à violer la Constitution de notre pays? Ça, c'est la première question. La deuxième, donc, la continuité de la première question. Je voudrais encore parler, parce que je l'ai suivi très bien attentivement. Il a encore parlé du ministre Lokono qui a contresigné l'arrêté. Moi, par ma formation, monsieur le journaliste, je vous dis que je prends l'effort de préserver la Constitution. La Constitution de notre pays, la République démocratique du Congo, même si elle n'est pas devant moi pour le moment, mais je vous dis que je sais que le gouverneur de la province qui nomme le ministre par voie d'arrêté. Alors, ce qui se tient à dire que le ministre qui a son chef, il est assis pour le gouverneur. Alors, est-ce qu'il peut nous répondre si un ministre peut commander le gouverneur ou l'obliger à appliquer des actes qui sont contraires à la loi ou pas? Alors, l'invité peut nous répondre tout à fait. Si un ministre peut dire au gouverneur d'appliquer les actes qui sont contraires à la loi, alors, s'il lui demande ça, quelle sera la décision du gouverneur? Alors, c'est ma première question que l'invité peut nous répondre. La deuxième, l'invité a parlé de détournement de prédécesseurs. Monsieur le journaliste, je demande à notre invité, il a parlé de détournement de prédécesseurs. Est-ce que ce comportement infractionnel qu'il a parlé, qu'il a voulu tirer comme exemple, est-ce que ce comportement infractionnel, on doit l'éviter ou on doit le comparer? Si on doit le comparer ou l'encourager, alors il faut aussi nous répondre quant à ça. On doit continuer à donner des exemples aux actes qui sont infractionnels, les actes qui étaient mal constatés par l'Assemblée provinciale qui est de détournement, que le président de la République avait même décidé de justice, décidé par une ordonnance de cette mauvaise gestion qui était à cette poste. Alors, est-ce que nous pouvons comparer la mauvaise gestion dans notre nouvelle province? Où nous pouvons éviter. C'est une comparaison à faire, l'invité peut nous répondre où c'est un comportement à éviter. Ça, c'est ma deuxième question. Et la continuité de la deuxième question, monsieur le journaliste, il a encore parlé de manque de moyens. Monsieur le journaliste, au moment où vous parlez de manque de moyens, alors, dites-nous maintenant, est-ce que vous prenez votre propre argent de la province pour faire fonctionner une province comme le Quater, ou si vous n'avez pas de moyens? C'est que vous pouvez au moins démissionner si vous n'avez pas de moyens, et ce n'est pas par votre propre moyen que vous pouvez faire fonctionner une province comme la nôtre.
Voilà.
Et il y a eu encore un discours programme, monsieur le journaliste, permettez, il y a eu encore un discours programme. Dans le discours programme du gouvernement, alors, il y a eu aussi encore un budget qui a été voté, monsieur le journaliste. Alors, qu'est-ce que prévoit la loi budgétaire par rapport à son application? Alors, quel est le rôle aussi du discours programme du gouvernement? Alors, si on n'a pas de moyens, c'est qu'on ne doit rien faire. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de tirer comme bénéfice si vous n'avez pas de moyens de fonctionner?
Merci.
Alors, quand vous n'avez pas de moyens de fonctionner, vous restez là pourquoi, monsieur le journaliste?
Merci beaucoup. Alors,
ma dernière question,
et allez-y rapidement,
il a encore parlé de. Monsieur le journaliste, il a encore parlé du fonctionnement de la déchaffette, monsieur le journaliste. Nous vous informons aujourd'hui qu'il y a eu un ordre de mission qui a été établi par le gouverneur. Il y a un ordre de mission qui a été établi par le gouverneur, dont M. Kouzongo et M. le DGA de la déchaffette, qui étaient allés à Kinshasa pour percevoir l'argent de la province. Nous vous confirmons ça, monsieur le journaliste, qu'il y a eu un autre mission qui a été établie. Ils ont perçu l'argent de la province à partir de Kinshasa. Nous pouvons vous préciser même la province qui, au moment où nous vous parlons,
il n'y a pas de
perte.
Voilà, merci beaucoup, M.
Kouzongo. C'est un verset à la banque ou à la banque
de la République.
Alors, nous pouvons parler d'un détournement ou pas.
Merci beaucoup, c'est la question. Détournement ou pas, je retiens que votre préoccupation tourne autour de cette question que nous avons abordée depuis le début sur les armoiries, les détournements des prédécesseurs, le manque de moyens. Vous avez même proposé, s'il n'y a pas de moyens, bon, je crois que le gouvernement ne va pas fonctionner de bonne foi ou prendre la main ou avec générosité, mettre la main à sa poche pour faire fonctionner la province. Il n'y a qu'à démissionner et parce que selon vous, le budget est exécuté, voilà, est équilibré en recettes et en dépenses. Ça, c'est le principe économique, d'ailleurs, le plus fondamental, dans la base même de l'économie. Tout le monde le sait. Merci beaucoup, Emergide. Alors, on revient à vous, notre invité, M. Dédoné Lokangé, ministre provincial des Finances et délégué du gouverneur à cette émission. Alors, quelle est votre réaction par rapport à toutes ces préoccupations? D'ailleurs, il y a une question directe, hein, une question directe qui vous a été posée par Emergide.
Oui, il y a des questions directes. Je vais commencer par le député qui est passé. Monsieur le député, il avait, sinon je vais perdre la suite de mes idées. Il était candidat pour la présidence de l'Assemblée et il soutenait un candidat. Alors, qu'il arrête de s'acharner, parce que ce n'est pas par notre faute que ce candidat, que lui, il avait soutenu, n'est pas passé.
Oui, je crois que ce n'est pas ça le débat. Les débats, c'est peu les faits.
Oui, ce n'est pas ça le débat, mais je vais quand même lui répondre pour passer à M. Jude.
Oui, je crois que...
Il devra nous dire en 10 ans qu'il était là à l'Assemblée, combien de gouverneurs l'a interpellé et quelles sont les motions qu'il a introduites, combien de lits il a introduits. Bon, ça c'est des futilités, passons à M. Jude.
Oui.
Je crois que celui qui a contresigné l'arrêté est un ministre. Personne ne l'a obligé. Et quand il a signé, puisqu'il a eu le courage de démissionner, si on l'avait obligé de signer, il pouvait démissionner avant et refuser de signer. Ça c'est un fait. L'article 1 de la Constitution n'interdit pas à une province d'avoir des armoiries. Kinshasa a ses armoiries. Il y a Malebo et consorts avec la tête de ce déchet et personne n'en fait un problème. Je crois que le président devra nous aider en ouvrant un sixième chantier à l'Équateur. Nous avions un sérieux problème de sous-développement mental. Et ce problème-là, dans le chef de certains de nos amis, nous crée des sérieux problèmes et ça attire la province vers le bas. Et le jour que ce problème de sous-développement mental sera réglé, ce chantier-là sera réglé, je crois qu'il n'y aura plus de problème à l'Équateur.
Ben voilà, alors manque de moyens, vous l'avez dit, vous n'avez pas de moyens. Mais parce que vous n'avez pas de moyens, je crois que vous ne fonctionnez pas par générosité.
Non. Personne ne dit qu'il prend l'héritage de sa famille et qu'il investit dans la province.
Alors, parce qu'il n'a pas de moyens, jusqu'à quand continuerez-vous, je crois que c'est la préoccupation de cet auditeur, continuerez-vous à vous lamenter, parce que s'il n'y a pas de moyens, sans moyens, on peut rien faire.
On n'est pas en train de nous lamenter, on est en train de répondre vis-à-vis des personnes qui nous agressent verbalement.
Alors pourquoi
depuis que nous travaillons, nous mettons en lampe, nous bétonnons des routes ici, nous nous débrouillons avec les moyens de bord, on a pleurniché chez personne.
Voilà.
Mais seulement quand les gens ils veulent nous faire croire que avant nous, il y a eu des gens qui ont fait plus que cela.
Voilà, merci beaucoup, monsieur Dieu. On va écouter les auditeurs. On va leur accorder une minute à chacun, parce que l'émission, on a écoulé pratiquement toutes les minutes. Docteur Michael, vous êtes Michael, voilà, vous êtes à l'embassy, bonjour.
Bonjour, Robert.
Voilà, vous avez une minute, docteur Michael.
Oui, merci, JR. La thématique de la région de l'Équateur nous interpelle tous. Mais comme je n'ai que quelques poussières de minutes là, mon problème c'est que pourquoi JR, dans cette province comme dans toutes les autres, les gens se permettent de se faire des gabégistes et de pouvoir piller les deniers publics et les finances de ce pays sans être condamnés. Pourquoi? Ça c'est ma première question. Parce que JR, vous savez très très bien que la justice est neuve d'une nation, dit-on, la Bible le déclare bien. Où est-ce que ce pays va nous amener? Pourquoi les gestionnaires de provinces, en commençant par les provinces jusqu'au niveau central, continuent à salir le nom de notre président Kabila? Pourquoi? Pourquoi ces gens ne sont jamais condamnés? Vous avez suivi très bien le gouvernement, comment est-ce qu'il était en train de déclarer que voilà, tous ces gens qui l'ont accusé, bien sûr, il a bien accusé réception de leurs accusations dans le mal et tout ça. Il faut fouiller dans le fond, hier. Parce que ces ministres-là ne sont pas fous pour qu'ils puissent commencer à pouvoir poursuivre ce gouverneur dans le vide. Hein?
Voilà, dommage, désolé, on ne peut pas aller plus loin avec vous. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission qui a consacré toutes les minutes sur les débats autour de la situation qui prévaut à Mbandaka. Merci à Dieudonné Lokangé, ministre provincial des Finances, délégué à cette émission par le gouverneur de province qui ne devait être que notre invité. Voilà, nous terminons cette émission en disant merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission, Julie Fezabongonda, Sylvain Matungo, Puré Lamegi. Cette émission vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo, Labou, Angie, sous la supervision de Martin Sebou, Jangwe. On se retrouve demain dans un autre numéro des paroles aux auditeurs. À très bientôt.